Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Élise Le. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, Harold Thibault est à nos côtés. Bonjour Harold Thibault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment journaliste au Monde. On va parler de la Corée. Cette semaine, la Corée du Sud a élu un nouveau président. Une élection intervenue alors que l'ancienne présidente avait été obligée de quitter ses fonctions à cause d'une procédure de destitution engagée contre elle pour des affaires de corruption. Le nouveau président Moon Jae-in va devoir faire face à de nombreux défis sur le plan intérieur d'abord, en moralisant la vie politique, en redynamisant une économie fragilisée, devant impérativement rassembler les conditions pour qu'elle crée davantage d'emplois, mais aussi des défis sur le plan extérieur. Le nouveau président s'était engagé à lancer un dialogue direct avec le voisin du Nord. Alors comment compte-t-il s'y prendre pour remettre en place ce dialogue avec Pyongyang et quelles conséquences sur le plan régional? Son élection va-t-elle modifier les rapports que Séoul entretient avec Washington, avec Pékin? Quelles sont les raisons de croire ou de ne pas croire en la perspective d'une réunification? Oui, on va poser cette question. Pour ce faire, Juliette Morillo est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Asialist, co-auteur avec Dorian Malovic de La Corée du Nord en Sans Question. Antoine Bondaz est également avec nous ce matin. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Vous êtes, vous, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po, également auteur d'un ouvrage sur la Corée du Nord. Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire. Avant d'évoquer cette péninsule coréenne, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin revient des Balkans, c'est Isabelle Lasserre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, grand reporter pour Le Figaro. Vous êtes donc rendu dans les Balkans, au Kosovo particulièrement et au Monténégro. L'occasion pour vous de faire un peu une sorte d'état des lieux sur cette situation dans les pays, en tout cas certains pays d'ex-Yougoslavie. Alors d'abord, on va commencer avec le Kosovo, Isabelle Lasserre. Rappelons-le, officiellement indépendant depuis une dizaine d'années, depuis février 2008, mais en réalité, c'est un pays qui vit toujours sous la tutelle internationale, grâce à l'aide internationale. Rappelons que son indépendance n'est pas reconnue par tout le monde. La Serbie, évidemment, la conteste. Un certain nombre de pays ont reconnu le Kosovo. Je pense aux États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais d'autres, évidemment, ne l'ont pas fait. Considèrent toujours que cette déclaration d'indépendance est parfaitement illégale, y compris à l'intérieur du Conseil de sécurité, puisque c'est le cas pour la Russie et la Chine. Alors, vous êtes allé dans la capitale Pristina, où vivent, rappelons-le, 18% d'Albanais, il y a quelques Turcs, mais c'est essentiellement des Albanais. Une grande majorité de ces personnes sont musulmanes. Vous avez un peu circulé, et notamment vous êtes allé du côté de la frontière sud, dans des villages proches de la Macédoine voisine. Vous y avez rencontré notamment Bouchi, un jeune Kosovar, un islamiste radical, djihadiste même, puisqu'il s'est rendu en Syrie dans les rangs de Daesh. On va commencer par cet homme. Qui est cet homme? Comment comprendre son engagement auprès de l'État islamique? Et puis plus généralement, on va essayer de comprendre comment finalement des jeunes gens tombent dans ce processus de radicalisation. Isabelle Lasserre.
Alors, il parle pas beaucoup, hein, pour pas dire plus du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de djihadistes au Kosovo, ce qui fait du Kosovo le pays d'Europe qui a fourni le plus de combattants aux organisations terroristes du Levant, Daesh et Al-Nusra.
300 départs.
Ouais, c'est beaucoup pour un petit pays de 1,8 million d'habitants. Bon, aujourd'hui, ils sont tous en prison, quand même, c'est quand même la chose à dire. Et ceux qui ne sont pas en prison sont étroitement surveillés. Donc le problème est contenu. Hein. Il est davantage sous cloche qu'il ne l'est dans d'autres pays d'Europe occidentale. Ceci étant dit, les jeunes comme Bouchir doit avoir à peu près 33 ans. Il a passé assez longtemps quand même dans les rangs de Daesh, 7 ou 8 mois. C'est pas mal quand même, 7 ou 8 mois. Et il part, comme la plupart des djihadistes kosovars, après avoir entendu un conseil lancé par le gouvernement laïque du Kosovo qui exhorte les jeunes kosovars à aller se battre contre Bachar al-Assad. Il y a une ambiguïté parce que, bien évidemment, le gouvernement kosovar ne conseille pas à tous ces jeunes kosovars d'aller se battre dans les rangs des organisations radicales. Donc c'est comme ça qu'ils partent au début. Après, ils sont un petit peu désenchantés, ils reviennent, ils sont pris en charge par les familles traditionnelles, les familles kosovares qui pratiquent un islam assez modéré, qui les reprennent en main et qui parfois arrivent à les déradicaliser assez rapidement. Là-dessus, se greffe en fait une espèce de désespérance à la fois économique, politique, sociale et d'avenir, si je puis dire comme ça. C'est-à-dire que le pays économiquement est exsangue. Il y a...
Tiens, grâce aux aides, uniquement.
Oui, et la mafia est organisée.
Alors Isabelle Lasserre, vous expliquez dans votre papier qu'il y a encore quelques mois, ces djihadistes s'exhibaient, paradaient fièrement dans les rues, se montraient dans les mosquées, on voyait parfois des drapeaux de Daesh flotter au-dessus des maisons, et aujourd'hui ils se font plus discrets, vous nous l'expliquez à l'instant, parce que évidemment beaucoup ont été jetés en prison. Je voudrais qu'on comprenne comment le salafisme est arrivé dans la région, parce que... Il n'a pas été historiquement implanté là depuis très longtemps, en fait. Racontez-nous comment il s'est implanté, comment cette doctrine, qui historiquement n'est pas très présente dans les Balkans, s'est implantée ici.
C'est intéressant parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. Moi, toutes les guerres que j'ai couvertes dans les pays de cette région, et même plus loin, se sont terminées de la même manière. C'était le cas en Tchétchénie, ça a été le cas en Bosnie, c'est le cas au Kosovo. Il y a une guerre... les familles sont déstructurées, il y a beaucoup de morts, il y a une espèce de désespoir absolu, un besoin de reconstruction, l'Europe n'est pas là, les pays occidentaux ne sont pas là, ou en tout cas ne sont pas là tout de suite, et à ce moment-là arrivent des organisations caritatives humanitaires, financées par l'Arabie Saoudite et aussi d'autres pays du Moyen-Orient, comme la Jordanie, et sous couvert d'actions humanitaires, ils financent tout un tas de choses. Donc ils financent des mosquées, ils financent des écoles, ils pallient, parce que c'est toujours pareil, ça se passe toujours de la même manière, ils pallient aux déficiences de l'État, offrent des pensions aux retraités qui n'en ont plus, permettent aux veuves de guerre de vivre en leur fournissant un revenu mensuel, et c'est comme ça que petit à petit ces idéologies extrêmes s'installent, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la culture albanaise, qu'on peut même pas parler de religion, parce que c'est une culture avant le
coup. C'est ce que vous explique un vendeur de kebab qui a vu justement arriver ces ONG financées par un certain nombre de pays du Moyen-Orient à mesure que les gens perdaient leurs emplois, et vous raconte que les ONG proliféraient. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est ce qu'il vous dit sur le prosélytisme dont elles ont fait montre. C'est-à-dire que elles poussent vraiment les gens à se radicaliser, et par l'argent, on donne 300 euros pour se laisser pousser la barbe, on donne 100 euros aux femmes pour se recouvrir d'un hijab. C'est ça concrètement.
Alors, c'est de l'argent, c'est un moyen de ne pas sombrer économiquement, et c'est aussi autre chose, c'est-à-dire que ces organisations humanitaires prétendent donner un sens à la vie à des gens qui n'en ont plus. Et en fait, petit à petit, cette idéologie religieuse très radicale a fini par remplacer, et c'est ça qui est très intéressant, le nationalisme albanais des Kosovars, qui était très très fort, très très puissant. Il a commencé à se dégonfler après que la guerre ait été gagnée et après que l'indépendance ait été acquise, chèrement acquise. À partir du moment où le pays se sent libre, il devient moins nationaliste. Et comme il n'y a rien pour prendre la place, il n'y a pas de possibilité de rejoindre la famille occidentale, donc il n'y a plus d'espoir au niveau culturel, idéologique, et que le pays tombe dans une espèce de zone grise, de poche déconnectée du monde entier, eh bien, on fonce dans ces idéologies qui remplacent le nationalisme, en fait.
Et pas nécessairement, d'ailleurs, dans une forme la plus radicale qui soit. C'est-à-dire qu'au-delà de cette question de radicalisation, de djihadisme, il y a une islamisation un peu générale de la société, qui est traditionnellement, vous le disiez, laïque et séculaire. Les individus sont de plus en plus nombreux à faire le ramadan, les étudiants font des pauses pour faire la prière. Comment expliquer cet élan du religieux? C'est précisément parce que ce nationalisme, finalement, est un petit peu en recul, et donc la religion, d'une certaine manière, la remplace, c'est ça?
C'est le nationalisme en recul, donc qui est remplacé par la religion. C'est le manque de perspective économique, c'est le manque de perspective
européenne,
et c'est aussi, quand même, il faut le dire, c'est quand même des zones qui, jusque-là, étaient... Enfin, c'était pas la zone soviétique. Enfin, c'était quand même le monde communiste sous Tito, même si c'était beaucoup plus doux à vivre qu'ailleurs à l'est de l'Europe. Mais c'est vrai que c'était un monde dont la religion avait quasiment disparu. Et comme partout ailleurs, quand l'idéologie communiste s'efface, elle laisse place à un retour de la religion.
Retour de la religion, mais aussi retour de certains pays qui, eux, profitent précisément de cette absence, et notamment cette absence de perspective du côté de l'Union européenne, qui a totalement abandonné toute la région de ces Balkans de l'Ouest. Et il y a notamment un pays qui a pris beaucoup d'influence dans cette région-là, c'est la Turquie.
Absolument. Et alors, c'est super intéressant parce qu'il se passe à des degrés divers la même chose que ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire, en Syrie, on a vu l'effacement relatif quand même des États-Unis, on a vu le retrait de l'Europe, enfin de l'Union européenne, et on a vu deux puissances régionales qui, au moment où les autres se retiraient, amorçaient un retour sur la scène internationale pour plein de raisons qui sont pas forcément liées à la Syrie, c'est-à-dire la Russie et la Turquie, investir ce vide. Et ben c'est pareil au Kosovo, alors qu'il y a plus de guerre, hein, donc c'est beaucoup moins dramatique, mais l'Union européenne franchement, c'est éloigné, puisque aujourd'hui, plus personne ne pense qu'elle pourrait s'étendre à l'Est et prendre de nouveaux membres, surtout pas le Kosovo. Il serait hypocrite de prétendre le contraire. Et quant aux États-Unis, ils se sont retirés aussi, ils s'effacent. C'est la politique de Barack Obama qui sera peut-être poursuivie par la politique de Donald Trump. Donc il y a deux courants qui prennent la place. Donc c'était d'abord l'Arabie Saoudite et les pays du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, c'est la Turquie qui arrive en force. Mais c'est incroyable.
Comment ça s'illustre, justement, cette présence?
Eh bien, par exemple, il y a énormément d'écoles qui ont été créées, des écoles très très bonnes, d'ailleurs, dans lesquelles les élites laïques du gouvernement mettent volontiers leurs enfants, parce qu'on y parle plusieurs langues, elles sont très très bonnes, etc. Mais alors, quand on construit une école, ce sont les réseaux goulénistes qui ont construit ces écoles. Quand on construit une école, on doit construire une mosquée aussi dans le jardin.
C'est comme donc c'est pas l'État turc en réalité.
Alors l'État turc intervient aussi parce que l'État turc a essayé de fait de l'ingérence politique en Turquie comme il en fait en Allemagne, comme il en fait dans les pays d'Europe. Et là c'est très simple. Après la tentative de coup d'État et la répression de Erdogan contre les réseaux goulénistes, il a essayé d'exporter cette répression au Kosovo. C'est-à-dire qu'il a intimé l'ordre au gouvernement kosovar d'Hashim Thaçi de fermer toutes les écoles parce qu'elles étaient goulénistes. Alors les Kosovars ont résisté, mais c'est quand même assez incroyable. Et la présence de l'État turc se manifeste d'une autre manière, c'est-à-dire que Ankara aimerait forcer ou convaincre en fait les Kosovars de revoir leur manuel scolaire parce que ils estiment que le Kosovo ne donne pas une assez belle image de la période de l'Empire ottoman. Et c'est vrai que les nationalistes albanais, déjà à l'époque, avaient résisté à l'Empire ottoman. Donc il y a une vraie intrusion de la Turquie dans la politique kosovare.
Au-delà de la Turquie, Isabelle Lasserre, ce que vous dites, qu'on voit finalement au Kosovo, mais qu'on voit un peu partout dans cette région, dans ces espaces de l'ex-Yougoslavie, c'est au fond l'échec du modèle multiethnique qui a été défendu par la communauté internationale. Il y a certaines personnes, visiblement, Isabelle Lasserre, et vous en parlez dans votre article, qui pensent que pour le Kosovo, la solution serait peut-être de se rattacher à l'Albanie. Est-ce que ça vous paraît possible, cette option?
Écoutez, oui. Je le dis d'autant plus avec d'autant plus de liberté que moi j'ai couvert la guerre du Kosovo et la guerre de Bosnie, etc. Et je faisais partie des gens à l'époque qui croyaient très très fort en la réussite du modèle multiethnique. Et voilà, force est de constater, 25 ans après pour la Bosnie, un peu moins pour le Kosovo, que ces modèles, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Alors, pourquoi ils fonctionnent pas au Kosovo? C'est que le Kosovo n'est pas vraiment indépendant, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est une souveraineté fantôme, tronquée. À partir du moment où la Russie, la Serbie et plusieurs pays ne reconnaissent pas son indépendance, ce pays ne peut pas s'intégrer dans les organisations internationales, donc ne peut pas commercer librement, donc c'est pas un vrai pays, c'est un pays qui est sous tutelle.
Le Monténégro, Isabelle Lasserre, petit pays, près de 600 000 habitants sur la mer Adriatique, frontalier avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo justement et l'Albanie. Un pays en train d'acter, lui, son ancrage vers l'Ouest puisqu'il est sur le point d'intégrer l'OTAN. Le Sénat américain a donné son accord, le Parlement monténégrin également, et si Moscou a dénoncé cette adhésion, elle sera pourtant a priori effective dans quelques jours, puisque c'est prévu, j'ai regardé, pour le 5 juin, donc c'est très très bientôt. C'est un moment historique, Isabelle Lasserre, ça traditionnellement, un espace sous influence de Moscou, c'est un tournant.
Oui, c'est un tournant. Il faut y mettre un bémol, il y a pas mal de pays d'Europe de l'Est où l'influence russe est très importante et même se renforce depuis quelques années. Donc
y compris au Monténégro ?
Non, je parle de la Bulgarie. Donc c'est pas parce que le Monténégro rejoint l'OTAN que les Russes vont partir et que l'influence russe va cesser. Ce qui risque de cesser en revanche, ce sont les opérations de déstabilisation de la Russie qui ont été au Monténégro d'une violence extrême.
Oui, il y a eu même une tentative de coup d'État.
Un complot.
Racontez-nous ça.
Un complot le 16 octobre 2016 qui visait à sans doute, alors ça, il n'y a pas encore la preuve, mais à assassiner le Premier ministre Milo Djukanovic et à le remplacer par un candidat, enfin un président qui soit davantage sensible aux intérêts de Moscou. Ça a capoté, il y a encore pas mal de zones d'ombre, mais la main de la Russie a été prouvée, démontrée par tous les services occidentaux. Qui ont
et Washington dit avoir en sa possession les preuves de ce coup d'État.
Voilà. Même la Serbie l'a reconnu, l'allié traditionnel de la Russie. Donc c'est absolument incroyable. Le Monténégro a très bien manœuvré, le Premier ministre Djukanovic, que l'Europe critique parfois pour être... parce qu'on dit qu'il est corrompu, etc., a assez bien manœuvré. Il a quand même réussi à offrir l'indépendance à son pays sans guerre. C'est le seul dans la région. Et il a réussi quand même à déraper, enfin dériver, enfin rejoindre plutôt la famille occidentale sans heurts majeurs, alors que la société reste extrêmement, extrêmement divisé. Et c'est quand même une assez bonne nouvelle pour le Monténégro. C'est sans doute un petit peu la fin de l'incertitude, de la galère. La ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest passe au Monténégro. À droite, il y a l'Homo Sovieticus, et à gauche, il y a ceux qui veulent rejoindre l'Europe libérale et démocrate.
Et est-ce que vous pensez que ça va transformer précisément le Monténégro lui-même? Comment vous voyez l'avenir de l'influence russe dans cette... Est-ce que vous rappelez qu'historiquement, il y avait une très forte influence russe dans cette région en particulier? Est-ce que c'est fini demain? La Russie va se désengager de cette zone-là? Va cesser d'investir?
Non, elle va demeurer. L'influence de la Russie est considérable au Monténégro, mais elle est considérable aussi en Macédoine, où il y a aussi des frères orthodoxes, et elle est considérable en Serbie. Par contre, c'est important au niveau du symbole, parce que, en fait, qu'a voulu faire la Russie ici? Parce que, à la limite, c'est un tout petit pays de 600 000 habitants. Ok, c'est l'accès à la mer Adriatique, donc c'est important pour Moscou, et c'est important pour l'OTAN aussi, quand même. Mais au-delà de ça, c'est le symbole qui importe. Moscou a voulu empêcher ce petit pays de rejoindre l'OTAN, parce que Moscou ne veut plus un seul élargissement de l'Alliance Atlantique à l'Est. C'est pour ça que la Russie a envahi la Géorgie et qu'elle y maintient des troupes aujourd'hui. C'est pour ça que la Russie a annexé la Crimée et déstabilisé l'Est de l'Ukraine et qu'elle y maintient des troupes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle voulait virer Djukanovic. Donc le symbole tombe. Il y a un nouvel élargissement du Monténégro à l'Est. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à la limite, c'est ça le plus intéressant. C'est est-ce que l'OTAN va continuer à avancer? Moi, personnellement, je crois pas. Ou est-ce que le Monténégro est le dernier État et que la porte sera fermée derrière et que la Russie se concentrera sur les autres pays? C'est-à-dire, à la limite, la porte, la frontière, au moins pour les années qui viennent, a été verrouillée derrière le Monténégro. Moi, c'est ce que je pense.
Toute dernière question. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Donald Trump a joué dans tout ça? Est-ce que finalement, elle a été permise, d'une certaine manière, cette intégration à l'OTAN? Parce que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Évidemment que les choses étaient engagées avant, mais est-ce que la Russie aurait pu l'empêcher?
Alors, en fait, moi, oui, vous avez raison. Je renverserai la question. C'est-à-dire que, en fait, la Russie a cru qu'elle pourrait empêcher l'intégration du Monténégro au sein de l'OTAN grâce à Donald Trump. Il faut ouais. pas oublier que quand même dans certains villages au Monténégro, il y avait des immenses panneaux Trump et Vladimir Poutine, les qui nous préparaient un avenir meilleur.
Tout ça a été retiré.
A changé de politique en quelques jours et la Russie a perdu en fait.
Et les panneaux étaient décrochés.
Les panneaux étaient décrochés et les t-shirts Vladimir Poutine ne se vendent plus tellement en ce moment.
Merci beaucoup Isabelle Lasserre d'être passée dans nos studios pour ce retour des Balkans. On peut relire d'ailleurs vos articles sur le site du Figaro. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ausencia. Si asa un tives pa voar es distancia. Si un gazel un for pa correr sem nem canseira. Então já na roceio não tava mamá cheia. E nunca mais ausência tá ser nos lema.
On quitte les Balkans pour prendre la direction de la péninsule coréenne. Après l'élection du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in, peut-on croire à une réunification de la péninsule coréenne ?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que la Corée du Sud avait vu sa présidente écartée du pouvoir pour des faits de corruption, mercredi, le pays a élu son nouveau président, Moon Jae-in, ancien avocat, désigné par plus de 13 millions de ses concitoyens, c'est-à-dire presque un peu plus de 41% des suffrages exprimés.
Censeur. 나는 헌법을 준수하고
Je jure solennellement devant le peuple que j'exécuterai fidèlement les devoirs du président en défendant l'État, en poursuivant l'unification pacifique de la patrie, en promouvant la liberté et le bien-être du peuple et en développant la culture nationale.
Moon Jae-in, nouveau président, donc, qui s'était présenté comme incorruptible, promettant de mettre fin aux relations ambiguës entre le monde des affaires et la classe politique. Je prends mes fonctions les mains vides et je les quitterai les mains vides, avait-il déclaré. Alors, quels furent les principaux enjeux de la campagne? Quels sont les défis du nouveau président en matière de politique économique, mais aussi sur le plan de la politique extérieure? Le nouveau chef de l'État s'est dit favorable à un dialogue plus direct avec la Corée du Nord. À quoi faut-il s'attendre? Quelles pourraient en être les conséquences sur ses liens avec les États-Unis, le Japon, la Chine? Pour en parler, Juliette Morillo et Antoine Bondaz sont nos invités. Harold Thibault, bien sûr, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Harold, on va commencer avec vous. Vous connaissez très bien cette région, d'ailleurs vous êtes rendu à Séoul à plusieurs reprises ces derniers mois. C'est donc le candidat du Parti démocratique de centre-gauche qui a été élu avec plus de 41% des voix. Le conservateur Hong Joon-pyo, issu des rangs du même parti que l'ancienne présidente, est arrivé assez loin derrière, hein, 25% des voix. C'est une victoire assez nette à Harold Thibault, qui traduit évidemment un réel désir de changement chez les Sud-Coréens.
Voilà, il y avait un réel ras-le-bol en fait après une décennie conservatrice. Moon Jae-in lui promet d'en finir avec la corruption qui mine les relations entre les chaebol, donc les grands conglomérats de pays tels que Hyundai, Samsung et le pouvoir. Donc lui, il a dit qu'il partirait les mains vides. Et l'autre grand sujet, c'est la Corée du Nord. Les conservateurs considèrent qu'il faut serrer la vis à la Corée du Nord pour pousser le régime, un régime terrible, à l'effondrement. Et les progressistes considèrent au contraire que qu'on les aime ou pas, le régime nord-coréen est là et que donc c'est un interlocuteur et qu'il faut parler avec eux, il faut parler avec Kim Jong-un. Et donc un des premiers mots de Moon Jae-in lorsqu'il a prêté serment devant le Parlement, c'est de dire « je suis prêt à me rendre à Washington, à Tokyo, à Pékin, mais surtout je suis prêt à me rendre à Pyongyang ».
Et de et discuter donc, ça, directement avec Kim Jong-un. Alors on va évidemment évoquer les questions régionales, les questions de politique étrangère, mais d'abord sur le plan intérieur. Juliette Morillo, je me tourne vers vous. Je voudrais comprendre les différents moteurs de ce désir de changement. Il y a, comme nous le disait à l'instant Harold Thibault, bien sûr ces affaires de corruption qui ont conduit à la destitution de l'ancienne présidente, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi bien d'autres choses.
Il y a une société qui est extrêmement mécontente. Je pense que vous vous souvenez, comme tout le monde, de ces images de manifestations gigantesques au lendemain du scandale, en octobre, et qui ont duré jusqu'à la destitution de la présidente.
Le mouvement des bougies.
Voilà, c'est ça, des millions de Sud-Coréens dans les rues. Et essentiellement beaucoup de jeunes, parce que les jeunes sont les premiers frappés. Donc je pense que le gros enjeu et pour Moon Jae-in sera finalement de se réconcilier avec la société civile, de se réconcilier avec la jeunesse et surtout lui redonner espoir. C'est-à-dire que cette jeunesse qu'il a portée au pouvoir, il n'y a pas qu'elle, mais cette jeunesse qu'il a portée au pouvoir est notamment frappée par le chômage et n'a plus d'espoir. C'est une jeunesse qui est régie par ce qu'on appelle le Chilpo Sede, qui veut dire une génération qui a perdu finalement cet espoir. C'est-à-dire ces sept espoirs. C'est d'abord l'espoir d'aimer, l'espoir de se marier, d'avoir un enfant, de posséder une maison, d'avoir un job, d'avoir une voiture. Elle a perdu l'espoir et les relations personnelles. Donc vous voyez que c'est quand même catastrophique. Et finalement, il faut lui redonner espoir. Et derrière les Coréens, derrière toutes ces manifestations, il y avait cette impression d'injustice qui est ancrée dans l'histoire de la Corée. Je pense que c'est important parce que ça recouvre à la fois la politique intérieure et la politique extérieure. Les Coréens ont un mot pour ça, c'est Han, c'est une sorte de rancœur historique. L'impression que leur gouvernement a toujours été finalement miné par la corruption, ce qui est le cas avec le scandale, ce qui a été mis en exergue avec le scandale de Park Geun-hye qui a conduit à sa destitution, mais également, là c'est plus sur le plan géopolitique, on le verra tout à l'heure, cette impression d'avoir jamais été maîtresse de son destin. Donc c'est tout ça, c'est cette restructuration profonde de la société confucéenne à laquelle Moon Jae-in doit s'attaquer.
Antoine Mondaz, on va effectivement voir les questions géopolitiques dans quelques minutes, mais restons un tout petit peu sur le contexte national parce qu'il est important justement pour comprendre les évolutions sur le plan de la politique extérieure. Antoine Mondaz, sur les moteurs de ce changement, peut-être en particulier sur cette question de la corruption, parce que ça a été évidemment l'une des grandes choses, l'un des grands reproches des citoyens, leurs responsables politiques, cette proximité avec les grand patron, ce qui a engendré ces affaires de corruption dont on a parlé ici à ce même micro. Quel est l'état de la gravité de cette connivence, de cette collusion et qu'est-ce que peut faire le nouveau président très concrètement, Antoine Bombaz?
C'est la grande question que se pose Moon Jae-in. En Corée du Sud, une majorité de Coréens considèrent que le moteur de la réussite, c'est de connaître la bonne personne. Ce n'est pas d'avoir fait de bonnes études, ce n'est pas d'être méritant, ce n'est pas d'être allé à l'étranger, c'est de connaître la bonne personne qui va pouvoir, avec les relations, vous trouver un travail, vous faciliter un emprunt, etc. Moon Jae-in est un changement concret, ça représente un changement concret. Mais il ne faut pas le surestimer. On n'a pas un renouvellement des élites politiques en Corée du Sud. C'est une alternance qui, en quelque sorte, est assez classique. Le candidat du renouveau, ça aurait pu être le candidat centriste, Han Chul-soo. Cet entrepreneur devenu millionnaire en investissant dans l'industrie du software, qui avait été candidat en 2012, qui s'était retiré au dernier moment, justement pour aider Moon Jae-in, candidat malheureux contre Park Geun-hye, lui qui est arrivé en troisième position avec à peu près 20% des voix, représentait le renouvellement des pratiques et de la classe politique. Là, on a un retour au pouvoir des progressistes qui ont eux-mêmes étaient au pouvoir, donc, de la fin des années 90 à la fin des années 2000. Moon Jae-in était lui-même, à la fin du mandat du président Noh Moo-hyun, son directeur de cabinet. Donc on a une alternance politique, mais pas un renouvellement complet. Il y a maintenant un objectif pour Moon Jae-in qui est de rassembler le peuple sud-coréen. Alors premièrement, rassembler sur le plan politique, il l'a fait dès son élection en nommant Lee Nak-yeon, le nouveau Premier ministre, qui est lui-même le gouverneur d'une province du sud-ouest de la Corée du Sud et qui est un gouverneur centriste. Ce n'est pas un gouverneur du même parti que Moon Jae-in. Mais cependant, il y a d'autres défis qui sont extrêmement importants. Il y a un fossé générationnel. Les jeunes ont voté massivement pour Moon Jae-in, mais les personnes plus âgées ont voté massivement pour le candidat conservateur. Et il faut quand même rappeler qu'après le scandale politique, mais d'une violence inouïe, les conservateurs font quand même 25% des voix, ce qui est énorme. Avec, donc malgré le scandale, malgré une scission de ceux qui s'opposaient, qui ont voté la destitution de la présidente Park Geun-hye, on a créé le parti Baron qui fait 7-8%. Donc on a quand même un bloc conservateur qui fait à peu près un tiers des voix en Corée du Sud. Donc on n'a pas un effondrement total des conservateurs. Il y a une demande d'alternance, mais pas un renouvellement des pratiques et ni même des personnalités.
Ce qui est assez paradoxal, c'est que les jeunes ont voté pour lui, mais ses idées ne sont pas particulièrement jeunes. On lui a demandé ce qu'il pensait de la question de l'homosexualité pendant la campagne. Il a dit qu'il était opposé, donc on voit qu'il est...
C'est un progressiste un peu conservateur quand même.
Il est assez vieux jeu sur ses idées finalement.
C'est véritablement un Coréen de l'ancienne génération. Ouais. Je pense que il avait été le candidat malheureux en 2012 face à Park Geun-hye. Et l'élection avait été de justesse, elle a été élue elle aussi sur un fossé des générationnel. Je pense qu'on risque d'un point de vue social, la jeunesse risque rapidement de déchanter s'il garde en effet ses positions assez traditionnelles et assez conservatrices.
Mmh. Sur l'économie, avant de passer aux affaires extérieures, sur l'économie, Juliette Morio, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Je le disais, une économie fragilisée, il va falloir créer de l'emploi. Quel est le plan de bataille?
Alors, il y a plusieurs points qui sont importants. En effet, il a promis de créer plus de 800 000 places de travail. Il a promis de se lancer et d'attaquer de front le chômage des jeunes, puisqu'il atteint, je crois, 11,6% d'après les dernières statistiques. Pour les Chaebol sont donc ces grands conglomérats comme Hyundai, Samsung, et qui sont vraiment dans la ligne de mire et qu'il va falloir restructurer. Alors c'est très délicat parce que ce sont quand même ces Chaebol qui ont fait le fameux miracle économique et qui ont fait la richesse de la Corée aujourd'hui. Mais les Coréens en
mais
ont...
quoi, il faut les restructurer?
Il faut les restructurer complètement. Il y a, souvenez-vous, c'est une petite anecdote mais qui est très très parlante. Il y a 2 ans, vous aviez l'héritière de Korean Air qui a fait retourner à port un avion simplement parce qu'on lui avait servi des cacahuètes sur une assiette en porcelaine au lieu de les mettre dans un sachet. Bon, c'est un petit symbole qui est très très parlant, qui montre cette emprise, ce côté princesse, l'influence de ces grandes familles. Donc, Moon Jae-in a promis déjà de faire plusieurs choses. Il a promis, je vais vous donner à nouveau un petit exemple très pratique, tous les votes à l'intérieur des Chaebol, de ces conglomérats, vont désormais se faire électroniquement. Ce qui fait qu'il donnera plus de voix, plus de pouvoir aux actionnaires qui ne font pas partie des grandes familles. Ça fait partie de son plan. Donner la voix aux autres, hormis les grandes familles des fondateurs de ces Chaebol.
On passe aux questions. Vous vouliez intervenir, Raoul Thibault?
Est-ce que lui-même va s'apercevoir qu'il a besoin de ces Chaebol, de ces conglomérats qui sont vraiment le pilier de l'économie sud-coréenne?
Ah bah c'est le gros point d'interrogation. Ceci dit, il a bien précisé, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il arrivait les mains vides. Mais il fait partie d'une génération. Il est très difficile de se séparer parce que c'est véritablement tentaculaire, ces Chaebol.
Antoine Mondaz, et puis on passe aux questions diplomatiques.
La dernière grande réforme a été faite à la fin des années 90 suite à la crise financière asiatique. Et c'est une crise qui a forcé les Chaebol à se renouveler. À l'époque, Daewoo était un immense Chaebol, il est aujourd'hui quasiment insignifiant. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la condamnation possible de l'héritier Lee Jae-hwi, Lee Jae-yong, donc un des héritiers de Samsung, va forcer et pousser le conglomérat Samsung à se réformer de lui-même également. C'est-à-dire qu'il y a c'était assez possible que la famille donc qui dirige financièrement, qui détient financièrement le Chaebol, se retire progressivement de sa direction et qu'on laisse en interne monter les plus méritants, les directeurs généraux, les managers, et donc une réforme des Chaebol par eux-mêmes, avant même une réforme forcée par le pouvoir politique.
Les questions diplomatiques, parce qu'elles sont extrêmement importantes, les conséquences sont très importantes, je le disais tout à l'heure dans mon petit chapeau, le nouveau chef de l'État s'est dit favorable donc à une relance du dialogue avec la Corée du Nord, il entend donc rompre avec la posture de fermeté qu'avaient adopté ses prédécesseurs conservateurs. On va commencer avec vous, Antoine Bondaz, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce changement? Comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Et puis aussi, comment est-ce que cette nouvelle posture pourrait être accueillie du côté de Pyongyang? Antoine Bondaz.
Alors, Moon Jae-in a été un des conseillers du président Noh Moo-hyun, qui lui a poursuivi ce qu'on appelait la politique du rayon de soleil, qui visait non pas tout simplement à donner de l'argent à la Corée du Nord, mais qui visait à faire évoluer les perceptions de la Corée du Nord vis-à-vis de son environnement et de réduire le complexe d'insécurité de la Corée du Nord. Et l'enjeu était de se dire, en investissant en Corée du Nord, en dialoguant, en demandant aussi, il faut s'en rappeler, aux pays européens, par exemple, au début des années 2000, d'établir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, alors la Corée du Nord changera son attitude et ne cherchera plus à se nucléariser. On était, il y a plus de 10 ans, à l'époque, la Corée du Nord n'avait pas encore fait d'essais nucléaires. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. La Corée du Nord a réalisé 5 essais nucléaires. Elle a accéléré considérablement son programme balistique. Il n'y a aujourd'hui plus de relations entre les deux Corées, puisque le complexe industriel intercoréen de Kaesong, qui était le dernier symbole, a fermé il y a un peu
juste plus à côté de la zone démilitarisée. Hein.
Exactement. Mmh. Il faut bien se rappeler que Im Yong-bak, qui avait été un président qu'on a présenté comme très conservateur, allant à la confrontation avec la Corée du Nord, avait décidé de ne jamais le fermer, pour justement le garder comme un des symboles de cette coopération intercoréenne.
Elle a finalement été fermée suite à des essais nucléaires, justement.
Exactement. Mmh. Donc on a d'un côté cette absence de coopération, une menace nord-coréenne qui est plus importante qu'avant, et une population qui, bien qu'elle ne considère pas la Corée du Nord forcément comme un ennemi, en tout cas, il y a une perception de la menace qui est croissante. Donc Moon Jae-in n'a pas les mêmes marges de manœuvre que l'ancien président progressiste Moon Jae-in.
C'est pour ça qu'il va falloir qu'il fasse un geste peut-être fort et pourquoi pas effectivement rencontrer, comme l'a dit tout à l'heure Harold Thibault, rencontrer directement Kim Jong-un. Ça vous paraît possible, Juliette Morillon?
Alors, je vais revenir sur un tout petit point. C'est vrai que la population sud-coréenne considère la Corée du Nord maintenant plus comme une menace. Mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a à nouveau un fossé générationnel. La génération des électeurs de Moon Jae-in, les jeunes dont on parlait tout à l'heure, eux considèrent la Corée du Nord comme un pays presque étranger. Donc, cette menace qui a été brandie par les conservateurs tout au long de ces années, ils n'en tiennent pas compte. Ils s'en fichent. Ils se focalisent véritablement sur leur vie et ne considèrent plus Pyongyang véritablement comme un ennemi. Ceci dit, oui, je pense qu'il est possible en effet qu'il y ait un dialogue direct et tout le monde espère que Moon Jae-in ira à Pyongyang. Et c'est ce que veut, au bout du compte, c'est ce que demande la Corée du Nord depuis des années. Toutes les grosses crises en Corée du Nord, on se souvient de Carter traversant la DMZ, toutes les grosses crises en Corée du Nord ont été réglées par un dialogue direct, bilatéral, soit entre Pyongyang et Washington, soit entre Pyongyang et Séoul.
Donc c'est souhaitable. Harold Thibault.
Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté à considérer que, en se parlant, on va rassurer la Corée du Nord, qui considère que son insécurité naît avant tout la présence des États-Unis?
C'est pas vraiment une... À partir du moment où il y a dialogue et on commence à faire un premier pas vers une reconnaissance diplomatique. Et je pense que le premier objectif de la Corée du Nord aujourd'hui, c'est de lancer des discussions. Il faut pas l'oublier dans notre discussion. C'est de lancer des discussions sur un traité de paix sur la péninsule. Donc ce dialogue intercoréen est capital. C'est un premier pas. Ce ne sera pas la solution, mais c'est un premier pas pour arriver vers cette reconnaissance diplomatique et cette négociation d'un traité de paix.
Alors, au cœur justement de ces négociations, de ces discussions, il y a quand même quelque chose qui est essentiel et qui est essentiel pour Washington. C'est la question de la dénucléarisation. Or, pour Pyongyang, on l'a dit à maintes reprises, cette arme nucléaire, cette dénucléarisation, en réalité, elle est totalement exclue parce que c'est une condition de survie du régime. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser cette question nucléaire? Comment faire dialoguer les différents partis sans que les négociations n'échouent inexorablement sur l'atome tueur? Antoine Bondaz.
C'est là également une des limites de la diplomatie de la Corée du Sud. Les Sud-Coréens ont peut-être fait une erreur politique ces 10 dernières années de lier la question de l'amélioration des relations intercoréennes à celle de la dénucléarisation. La Corée du Sud, malheureusement, seule, ne peut pas parvenir à dénucléariser son voisin. Cette question ne peut être résolue aujourd'hui que par la Chine et surtout les États-Unis. Donc Moon Jae-in entend reprendre donc un dialogue et un engagement économique, une coopération économique en rouvrant Kaesong et peut-être en allant plus loin. Cela pourrait avoir un impact peut-être sur les relations intercoréennes et la baisse des tensions dans la péninsule. Est-ce que cela aura un impact direct sur la question nucléaire? C'est très peu probable. Donc ça peut créer un environnement pour peut-être pousser les Américains et faciliter les discussions entre les Nord-Coréens et les Américains. Est-ce que cela va permettre de dénucléariser le voisin nord-coréen? Non. Et ce qui est extrêmement important en Corée du Nord, c'est qu'il y a cette dimension sécuritaire, bien évidemment, du programme nucléaire, mais il y a une dimension politique et identitaire de plus en plus.
C'est partie de l'identité de la Corée du Nord. Juliette Morillo et puis ensuite Harold Thibault, sur cette question de la dénucléarisation impossible et puis aussi peut-être sur la question du point de vue de Washington qui visiblement n'a pas l'air du tout ravi de cette idée d'une relance d'un dialogue intercoréen, Juliette Morillo.
Oui, alors, de facto, la Corée du Nord, maintenant, est une puissance nucléaire. Donc, ce problème... il y a une impasse parce que pour les Nord-Coréens, le dialogue doit arriver avant la dénucléarisation et pour Washington, c'est l'inverse. Je pense qu'on va finir par aboutir à un retour à la table des négociations à 6, c'est-à-dire négociations à 6, c'est Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Chine et Russie, à Pékin. C'est probablement ce qui va arriver et ce dialogue est nécessaire et comme vous le dites, à Washington, envoie des signaux finalement très contradictoires. Mais ça, c'est lié beaucoup à la personnalité.
C'est l'habitude de Donald Trump.
C'est lié à la personnalité de Trump qui est probablement le plus imprévisible cette fois-ci pour le coup des deux. La Corée du Nord, on sait très bien ce qu'ils veulent, on sait où ils veulent aller. Là, ces menaces, il a un petit peu joué avec le feu et en annonçant, rappelons-le, l'envoi d'une armada militaire d'un porte-avions vers la péninsule coréenne, c'était véritablement jouer avec le feu, mais au-delà de cela et de risquer une étincelle sur la péninsule coréenne et un conflit, c'est également se décrédibiliser très clairement auprès de ses propres alliés, c'est-à-dire auprès de la Corée du Sud et auprès du Japon. Donc là, le jeu est délicat.
Risqué. Harold Thibault.
Qui sont donc Japon et Corée du Sud qui sont particulièrement inquiets. Finalement, le sort de la péninsule coréenne dépend pas mal de la ligne que va adopter Washington. Pour l'instant, la ligne de Trump, elle n'existe pas.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est prêt en campagne à dire qu'il voudrait bien manger un burger avec Kim Jong-un.
Et en même temps, il envoie un porte-avions.
C'est un smart cookie, donc à lui reconnaître une forme d'intelligence, de rationalité que finalement dénigraient ses prédécesseurs. Et en même temps, il est pour un renforcement des sanctions. Tillerson dit qu'on ne peut pas, donc son secrétaire d'État, dit qu'on ne peut pas tolérer une Corée du Nord nucléaire. Or, c'est déjà le cas. Donc, il n'a pas nommé les responsables de l'Asie au sein du département d'État, toujours pas. Donc, il n'y a pas encore de ligne.
Antoine Bondaz, sur ce manque de lignes
de Washington. Il y a une vraie question qui se pose maintenant dans les négociations internationales. Pendant très longtemps, on a voulu empêcher la nucléarisation. À partir de 2006, on a voulu inverser cette nucléarisation. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réaliste ou pas? Et si ce n'est plus réaliste, est-ce qu'il ne faudrait pas négocier le fait de contenir la menace dans un premier temps, puis dans un second temps de négocier une dénucléarisation, plutôt que de laisser, au final, le programme nucléaire et balistique continuer son avancement.
Vous permettez une question naïve, ça veut dire quoi contenir sa menace? Je comprends ce que ça veut dire en français, mais concrètement, ça veut dire
contenir,
quoi?
Contenir, ça veut dire que...
Ça veut dire finir de déployer le fameux système antimissile TAD, par exemple?
Pas seulement, ça veut dire que depuis 10 ans, on a essayé de négocier avec la Corée du Nord, on l'a sanctionné, ça n'a pas eu d'impact direct sur la dénucléarisation. On a sûrement ralenti le programme nucléaire et balistique, on ne l'a pas empêché, et la menace a continué de s'accroître. Aujourd'hui, il peut y avoir pour les États-Unis et surtout pour Donald Trump, et ça c'est une grande inquiétude de la Corée du Sud et du Japon, peut-être l'objectif de contenir la menace, je veux dire d'éviter par exemple un essai balistique intercontinental, ou si à terme la Corée du Nord avait un ICBM, pourrait frapper le continent américain.
ICBM ?
Un missile balistique intercontinental. Donc il y a une vraie question qui se pose, Trump est allé tellement loin sur le dossier nord-coréen qu'il a besoin d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut obtenir à très court terme? Il ne peut pas obtenir une nucléarisation, une dénucléarisation. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, selon lui, le fait de négocier, par exemple, un gel du programme balistique, en tout cas du programme balistique intercontinental? Ça, c'est un risque. C'est un risque pour la Corée du Sud et pour le Japon, puisque pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et pour eux, la menace reste entière. Mais pour Donald Trump, ça peut représenter une victoire diplomatique, en tout cas une victoire à vendre à la population américaine, en disant voilà, le président Trump est le premier à avoir réussi un gel et à négocier un gel du programme balistique nord-coréen.
Juliette, reconnaître que c'est une puissance nucléaire, et donc c'est s'asseoir sur le traité de non-prolifération. Donc là, pour la diplomatie américaine, c'est difficile à encaisser.
Oui. Mais Barack Obama avait négocié en 2011 et 2012 ce qu'on a appelé le Leap Day Deal Agreement. En février 2012, il était tombé à l'eau. C'était un gel du programme balistique et nucléaire nord-coréen.
Juliette,
il y aurait encore une autre solution qui serait négocier une sorte d'accord comme ce qui a été conclu avec Téhéran, c'est-à-dire limiter le programme nucléaire militaire pour retourner à un programme nucléaire purement civil.
Pyongyang serait d'accord avec cette option ?
Je pense qu'à terme, Pyongyang pourrait être d'accord avec une telle option, à terme, bien évidemment.
Sur Pékin, Juliette Morillo, on voit bien là le mouvement qui est en train d'essayer d'opérer Séoul, c'est-à-dire une forme de prise de distance de Washington et peut-être même justement un rapprochement du côté de Pékin. Jusqu'où ce rapprochement entre Séoul et Pékin peut aller selon vous? Jusqu'où est-ce qu'on peut distendre les liens avec l'allié historique américain?
Oh, c'est très compliqué parce que Pékin est, il faut le répéter, dans une situation extrêmement embarrassante avec la Corée du Nord. Et au cours de son histoire, il faut savoir que la Chine n'a jamais accepté d'avoir des troupes étrangères à ses portes. Donc, tout rapprochement qui permettrait éventuellement, c'est un petit peu le sujet de l'émission,
une perspective de réunification
entraînerait une Corée qui serait de facto nucléarisée. Avec des troupes américaines à ses portes. Donc cet état tampon nord-coréen est capital. Quant aux liens avec la Corée du Sud, ils sont distendus puisque vous avez le fameux bouclier antimissile THAAD qui a été placé justement au sud du 38e parallèle pour contrer les missiles nord-coréens. Mais la Chine se sent directement menacée. La Chine, ceci dit, peut jouer un rôle diplomatique et c'est ce qu'elle est en train de faire, puisque je crois que aujourd'hui, pour la première fois, j'ai oublié le nom de la conférence sur la route de la soie.
One Belt, One Road.
Voilà, qui a lieu, je crois, ce week-end. Pour la première fois, la Corée du Nord a été invitée et la Corée du Sud a dit qu'elle allait envoyer également quelqu'un. On ne sait pas encore qui va être envoyé, mais c'est manifestement une initiative chinoise pour permettre des discussions, bien sûr, off record.
Harold Thibault.
La prédécesseur de Moon Jae-in, Park Geun-hye, qui a été donc impeachée, s'y était essayée. C'est-à-dire qu'en arrivant au pouvoir début 2013, Xi Jinping lui est arrivé au pouvoir en Chine depuis quelques mois et il y a eu un fort rapprochement. Le calcul des Sud-Coréens, c'était qu'on va se rapprocher de la Chine, notamment pour le business, ça va être bon pour notre économie, et qu'en retour, les Chinois vont sanctionner la Corée du Nord. Or, on en revient à ce fondamental de base, qui est que la Chine ne peut pas trop sanctionner le Nord, car elle craint qu'il s'effondre.
C'est même allé
Antoine Bondaz.
Il faut se rappeler qu'en septembre 2015, la présidente Park Geun-hye s'est rendue à la parade militaire chinoise, célébrant la victoire sur l'ancien occupant japonais. Et elle avait été à l'époque beaucoup critiquée par les alliés américains et par le partenaire japonais. Les Chinois parlaient alors de lune de miel entre les deux pays et les Sud-Coréens ont fait un mauvais calcul, qui était de se dire « on va pouvoir influencer la Chine ». L'intérêt national de la Chine n'a pas évolué et n'évolue pas, quel que soit le président de Corée du Sud.
Et donc il y a eu un réalignement.
Assez brutale de Park Geun-hye, qui, alors qu'elle a été élue sur une ligne modérée, c'est-à-dire on va chercher un équilibre entre Pékin et Washington, à la fin de son mandat, s'est considérablement rapprochée de Washington et a décidé pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud de déployer un système antimissile américain contrôlé par les Américains. Puisque le THAAD n'est pas contrôlé par la Corée du Sud. Et c'est ça une des grandes critiques de la Chine, dont l'objectif est de maintenir la stabilité dans la péninsule coréenne et, à plus long terme, d'affaiblir, bien évidemment, l'alliance entre Washington et Séoul.
Une critique également qu'on entend dans la bouche du nouveau président Moon, qui a relayé cette idée-là, qui est en fait assez opposée à ce système antimissile. Une toute dernière question, il nous reste 2-3 minutes. C'est une question qu'on pose à chaque fois sur la Corée du Nord. On a parfois des signaux qui vont dans ce sens, d'autres dans l'autre. La question de l'effondrement du régime. Antoine Bondaz, est-ce que ça vous paraît aujourd'hui possible, plausible? Évidemment, c'est très difficile, on manque d'informations, mais il y a parfois des signaux. J'ai là, par exemple, sous les yeux, un papier du Monde qui avait été réalisé par Harold Thibault, qui est à nos côtés, sur un ancien diplomate nord-coréen qui était basé à Londres, qui, lui, semble dire que l'effondrement du régime n'est pas si lointain. Alors, faut-il le croire, Antoine Bondaz?
Ça fait des années qu'on surestime la fragilité du régime. Le régime est aujourd'hui résilient, extrêmement solide, et il est en tout cas beaucoup plus stable qu'il ne l'était il y a par exemple une petite dizaine d'années, c'est-à-dire au cours de la transition 2008-2009, et surtout beaucoup plus stable qu'il était dans les années 90. Il faut quand même se rappeler que la Corée du Nord, à l'époque de Kim Il-sung, puis il est mort en 94, a vécu une crise économique, humanitaire, politique, stratégique, militaire sans précédent. Donc et le régime a survécu. Aujourd'hui, le régime n'est pas florissant, mais le régime est stable.
Stable, oui. Juliette Morillot, vous êtes d'accord?
Oui, je suis parfaitement d'accord. Quant à ce diplomate nord-coréen qui est passé au Sud, il faut quand même se méfier d'un diplomate, puisqu'il était l'ambassadeur nord-coréen à Londres. Ça faisait un petit peu partie du deal, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il passe au Sud, il se place du côté très clairement du Sud-Coréen et entretient également une sorte de contre-propagande évoquant un éventuel effondrement nord-coréen. Mais je rejoins tout à fait Antoine Bondaz.
C'est ce que le je dans le papier, voilà, qu'il est utilisé pour servir la soupe.
Voilà,
au conservateur.
Et parfaitement, et beaucoup plus solide qu'il ne l'était auparavant.
Antoine Bondaz,
et personne n'y a intérêt, en plus, à cet effondrement.
Ouais.
Donc c'est soutenu aussi de l'extérieur. Ouais. Aucune des grandes puissances n'a intérêt à cela.
Antoine Bondaz.
Tae Yong-ho, moi je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un mois à Séoul.
Qui est donc cet ancien diplomate en poste à Londres.
Une chose intéressante, c'est que la libéralisation extrêmement partielle, extrêmement limitée de la Corée du Nord, peut être à terme la plus grande menace. La plus grande menace aujourd'hui pour le régime, ce n'est pas une attaque étrangère, ce n'est pas la diplomatie sud-coréenne, c'est en réalité une marchéisation de l'économie.
Qui est en route.
Et qui pourrait, à long terme, en tout cas pas à court terme, fragiliser les structures de pouvoir du régime.
Bien évidemment, parce que c'est un petit peu fissuré avec cette ouverture de l'économie. Vous avez de plus en plus de Nord-Coréens qui vont à l'étranger, donc ça entraîne de plus en plus de connaissances de ce qui se passe à l'étranger. Et le grand challenge, finalement, défi pour Kim Jong-un, c'est d'autoriser un petit peu de liberté, Internet, des voyages, etc., pour calmer l'envie de son peuple et malgré tout maintenir le pouvoir solidement entre ses mains.
Juliette Morillot, les jeunes qui ont voté pour Moon ne verront pas la réunification?
Je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas, comme l'ancienne présidente Park Geun-hye, une chamane pour me dire ce qui va se passer.
Vous devriez, Antoine Bondaz.
Ici, et de savoir est-ce qu'ils la veulent. Alors, au-delà des questions financières, il y a quand même une question extrêmement importante, qui est la question de la constitution de deux entités aujourd'hui distinctes, une identité sud-coréenne et une identité nord-coréenne, ce qui rend la réunification, en tout cas à court ou moyen terme, beaucoup plus compliquée qu'elle n'avait pu l'être par le passé.
Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse sud-coréenne, elle s'appelle Han Suk-soon et ce titre s'appelle Rabbit Story. C'est un titre qui a été trouvé par Alexandre Fougeron, que je remercie, notre réalisateur. Merci beaucoup à tous, Harold Thibault, bien sûr, journaliste au Monde, notre partenaire le vendredi. Juliette Morillot, dont je rappellerai l'ouvrage La Corée du Nord en 100 questions que vous avez coécrit avec Dorian Malovic et qui est paru chez Talendier. Et merci également à vous, Antoine Bondaz. Je rappellerai La Corée du Nord plongée au cœur d'un état totalitaire. C'était aux éditions du Chêne dernière. Un grand merci à tous les trois. Onze heures passées de presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver notre chamane à nous.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Eh oui, c'est vous, Brice. Bonjour, Brice.
Bonjour, Florian.
Alors, suite et fin de votre feuilleton de la semaine, que dit-on l'élection d'Emmanuel Macron dans le reste du monde et qu'est-ce que cela peut changer en Europe?
Ah oui, d'abord, et pourquoi et comment a-t-il gagné? Voilà les cinq raisons que donne la BBC. La première, une évidence, Macron a de la chance. C'est Lucky Emmanuel. Le fameux alignement des planètes, diagnostiqué par un astrologue amateur, le président sortant, plus habitué à la pluie. Macron s'est lancé sans savoir à l'avance que tous ses rivaux potentiels et réels allaient, un par un, mordre la poussière. Deuxième raison, il est futé. Il a compris avant tout le monde que l'électorat, lassé de la morne alternance entre les deux mêmes partis, était mûr pour l'émergence d'un mouvement politique absolument neuf. Comme Podemos en Espagne, 5 étoiles en Italie. Tertio, il a utilisé des méthodes déjà expérimentées avec succès aux États-Unis lors de la campagne pour l'élection d'Obama en 2008. À l'aide d'un algorithme, on commence par identifier un certain nombre de circonscriptions représentatives de l'ensemble du pays. On y envoie des militants, les fameux helpers, afin qu'ils aillent sonder les habitants. 300 000 foyers ont été ainsi visités par cette méthode. Sont alors sélectionnés 25 000 d'entre eux qui acceptent de répondre à un questionnaire approfondi sur leurs attentes et leurs aspirations. Et bien, c'est sur la base de leurs réponses qu'est élaboré le programme du mouvement. Quatrième cause du succès, toujours selon la Bibs, il portait un message positif. Et la BBC de citer Marc-Olivier Padis de Terra Nova. L'humeur qui prévaut en France est très pessimiste et lui, il est arrivé avec un message positif. Cinquième, il a frappé fort contre son adversaire Marine Le Pen. Plus son message à elle était placé sous le signe anti, anti-Union européenne, anti-immigré, anti-système, plus Macron positivait le sien.
Alors voilà donc pour les causes de la victoire, Brice. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de cette question de savoir ce qui peut changer?
Alors le think tank américain Carnegie Endowment a réuni les avis de plusieurs experts et leurs avis convergent. Ils considèrent unanimement que la tâche sera rude. Pourquoi? Parce que la France apparaît divisée comme elle l'a rarement été dans son histoire récente. Recoller les morceaux séparés de la France demandera beaucoup d'habileté, prévient Pierre Vimont. C'est pourquoi l'idée macronienne d'un gouvernement de droite et de gauche apparaît judicieuse à Marc Pirini. Beaucoup d'experts estiment que le nouveau président est attendu dans le monde sur le dossier de la défense. Au cours de la décennie écoulée, relève Eric Bradberg, la France s'est révélée l'un des alliés les plus fiables des États-Unis. Et notre pays a démontré ses capacités d'intervention militaire sur de nombreux secteurs de crise. Alors les choses peuvent-elles changer avec un Trump à la Maison-Blanche et un Macron à l'Élysée? Marine Le Pen, on sait, voulait quitter l'OTAN, Macron veut y rester, mais que va devenir l'Alliance Atlantique avec un Mr. Unpredictable à la tête de la première puissance militaire de la planète? En tout cas, estime Bradberg, toujours lui, Macron a déjà démontré qu'il savait tenir tête à l'allié américain lorsque surgissent de profonds désaccords. Et ce sera notamment le cas sur le dossier du réchauffement climatique, où là, la contradiction est flagrante.
Alors, toujours chez Carnegie, Judy Dempsey a lancé une discussion sur le thème « La France sera-t-elle le rédempteur de l'Europe ?» Rien que ça.
Eh oui, en tout cas, c'est bien comme ça que se voient eux-mêmes les Français, selon Cornelius Adhébar, rédempteur de l'Europe. Il y a tant d'obstacles sur la route que Macron entend parcourir, selon Rosa Balfour, qu'il est bien trop tôt pour prédire si la France peut, oui ou non, sortir l'Union européenne de sa torpeur actuelle. Et la plupart des experts de rappeler que les candidatures populistes et hostiles à l'UE ont rassemblé plus de 40% des électeurs de cette présidentielle. La seule chose qui pourrait les faire changer d'avis, toujours selon Rosa Balfour, serait un New Deal sur l'économie et la gouvernance passé entre Paris et Berlin. On en a déjà parlé. Réaction très négative de Liza Bomassi. Macron voudrait être un président rassembleur. Il se croit capable de réconcilier des intérêts et des idéaux bien trop divergents pour être satisfait, dont nombreux sont ceux qui ne veulent pas de sa politique. Malheureusement, écrit-elle, il va s'agir bien davantage de concessions et de négociations sur le front intérieur que d'instaurer un leadership français en Europe capable d'agir en complément avec l'Allemagne. On relève des inquiétudes en provenance d'Europe centrale. Piotr Bourras, qui dirige le bureau de Varsovie du think tank European Council on Foreign Relations, les exprime ainsi. Macron sera sans doute tenté de faire passer des réformes pas toujours populaire à l'intérieur, en obtenant des autres capitales d'Europe de l'Ouest des mesures de restriction à la mobilité des travailleurs de l'Est. L'Autriche y est déjà très favorable, d'autres pourraient suivre. Au passage, on remarque que plusieurs expressions qui reviennent en anglais pour caractériser ce qui se passe en France sur le plan politique sont intraduisibles. Et pourtant, elles sont révélatrices de la manière dont ces élections sont appréciées. Prenez par exemple le « game changer », celui qui change la donne, qui relance le jeu, qui édicte de nouvelles règles. De même, honnêtement, « on the move » sonne beaucoup mieux que le français « en marche », qui vous a un petit côté régiment en campagne ou troupe de scout après la pause.
Merci beaucoup Brice Couturier, vous savez notre attachement à la langue française, alors on va rester sur cette en marche. Merci beaucoup Brice Couturier, on peut bien sûr retrouver toutes vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.